de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 14 novembre 2021 pour le journal suivi d'un commentaire politique. Galilée s'embrase, Ben Gourion en feu. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, 4 civils yéménites tués dans une nouvelle frappe saoudienne. Au moins 6 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans un attentat visant une zone chiite en Afghanistan, revendiquée par Daesh. Et puis les États-Unis ont dissimulé le meurtre d'au moins 64 femmes et enfants lors des frappes aériennes il y a 3 ans sur Syrie. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Quatre autres civils ont été tués lors d'une nouvelle frappe aérienne saoudienne dans la province méridionale de Chabwa au Yémen. Les décès sont survenus suite à une attaque des avions de combat saoudiens visant un véhicule dans le district de Merka Al-Yulia. Les bombardements surviennent un jour après que 4 civils ont été tués dans une autre frappe aérienne saoudienne dans la province occidentale de Hudaïda au Yémen. 3 enfants se trouvent parmi les victimes. La frappe fait suite à des avancées majeures réalisées par les forces armées yéménites contre des mercenaires armés à la Saoul soutenus par l'étranger à Al-Udaïda. L'Arabie saoudite, soutenue par les États-Unis et leurs alliés régionaux, a lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015, dans le but de ramener au pouvoir le gouvernement fantoche de l'ancien président yéménite Abd Rabo Mansour Hadi et d'écraser le mouvement de la résistance populaire Ansar Allah. La guerre qui a poussé le pays dans ce que les Nations Unies appellent la pire crise humanitaire au monde a fait des centaines de milliers de morts yéménites et en a déplacé des millions d'autres. Elle a également détruit les infrastructures du Yémen et y a propagé la famine et les maladies infectieuses. Cependant, les forces armées yéménites et les comités populaires alliés n'ont cessé de se renforcer contre les envahisseurs et ont laissé Riyad et sa coalition s'enliser dans le pays. Au moins 6 personnes auraient été tuées et plusieurs autres blessées dans un attentat à la bombe contre une zone à majorité chiite près de la capitale afghane Kaboul. L'incident a eu lieu après qu'une bombe magnétique attachée à un minibus a explosé près d'un poste de contrôle des talibans dans le quartier de Dasht-e-Barchi. L'une des victimes était un journaliste afghan bien connu. L'Afghanistan a connu une vague d'attaques terroristes depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays à la mi-août. Vendredi, un attentat à la bombe a visé une mosquée dans la province orientale de Nangarhar, faisant au moins 3 morts et 15 autres blessés. Plus de 120 personnes ont été tuées dans des attentats à la bombe revendiqués par Daesh contre 2 mosquées chiites en octobre. Un jour après l'attentat à la bombe qui a ravagé une caserne de police dans le nord du Pakistan, les terroristes Daesh l'ont revendiqué. Deux policiers ont été tués dans l'explosion d'un engin enterré au bord d'une route au nord-ouest du Pakistan, près de la frontière avec l'Afghanistan voisin, ont annoncé samedi les autorités pakistanaises. Six civils, dont une jeune fille, ont également été blessés. Les deux policiers assuraient des missions liées à la sécurité près de Rajandam lorsque des individus inconnus ont fait exploser un engin télécommandé déposé sur une route, indique la source. La même source a ajouté que les opérations de recherche se poursuivaient pour trouver les assaillants. Les terroristes Daesh ont revendiqué une série de violences sanglantes, y compris des attaques contre des mosquées en Afghanistan au cours des derniers mois. Mais de telles attaques ont été rares au Pakistan. Les États-Unis auraient dissimulé le meurtre d'au moins 64 femmes et enfants lors de frappes aériennes meurtrières menées il y a 3 ans sur la province syrienne de Deir ez-Zor. L'armée américaine a admis que 2 frappes consécutives menées en mars 2019 près de la ville de Beghouz ont tué 80 personnes, dont 16 terroristes de Daesh. C'est alors qu'il admet qu'il n'est pas clair si les autres étaient des civils, arguant que les femmes et les enfants pouvaient aussi être des combattants. Selon un rapport de New York Times, le 18 mars 2019, un avion de chasse américain a largué une bombe sur une grande foule de femmes et d'enfants blottis contre une berge de rivière, puis a procédé à la chute de plusieurs autres, tuant des survivants. Selon un avocat de l'US Air Force qui a supervisé l'opération, l'attaque aurait choqué même des officiers de l'armée américaine qui ont regardé l'incident se dérouler en direct à l'aide d'une caméra de drone et se sont demandé si cela pouvait être considéré comme un crime de guerre. Cependant, le bombardement a été rapidement dissimulé par l'armée et une enquête n'a jamais eu lieu selon le rapport. Le crime moral d'Israël a retenti au Royaume-Uni. Des centaines d'activistes anti-sionistes et diverses sections de la population ont manifesté samedi après-midi à Brighton, en Angleterre, pour soutenir le peuple palestinien et dénoncer les crimes du régime sioniste. Les manifestants scandaient « Mora Israël » et exigeaient la fin du soutien du gouvernement de Londres aux sionistes. Ils ont également porté et agité le drapeau palestinien, dénonçant les crimes barbares du régime sioniste à Gaza, et appelant au soutien populaire pour boycotter le régime d'apartheid. Les manifestations antisionistes en Grande-Bretagne se sont intensifiées ces derniers mois à la suite de violentes attaques et agressions des occupants israéliens contre la bande de Gaza, qui ont fait 230 morts, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. À cela s'ajoutent plus de 1 700 blessés. À ce jour, plusieurs manifestations antisionistes ont eu lieu dans la capitale britannique. Les manifestants ont mis le feu à un drapeau israélien devant l'ambassade à Londres et exigé l'expulsion de diplomates sionistes. Alors que les présidents chinois et américains se préparent à une rencontre virtuelle, les deux parties ne semblent pas reculer devant leur position sur Taïwan. Les très hauts diplomates américains et chinois ont échangé des avertissements par téléphone. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken a déclaré que Pékin doit arrêter les pressions militaires, diplomatiques et économiques contre Taïwan et s'engager pour reprendre ses mots dans un dialogue significatif pour résoudre les problèmes de manière pacifique. En réaction, son homologue chinois Wang Yi a exhorté Washington à revenir sur ses actions dangereuses en faveur des séparatistes taïwanais. Des actions qui ne peuvent que nuire à la paix dans la région, a-t-il dit. Washington ne cesse de susciter l'ire de Pékin avec son soutien militaire et ses contacts diplomatiques provocateurs avec Taipei. Plus récemment, une visite d'un groupe de législateurs américains a eu lieu sur l'île. Les présidents Joe Biden et Xi Jinping se rencontreront l'île lundi pour discuter de leurs divergences. Les pirates ont encore frappé leur cible, cette fois le système de messagerie du FBI. Un grand nombre de faux avertissements ont été envoyés, mettant en garde sur une cyberattaque en cours. Le FBI dit qu'il enquête sur l'attaque et que le serveur compromis est maintenant hors service. Le système de messagerie auquel les pirates informatiques semblent avoir eu accès est celui utilisé par les agents et les responsables du département pour communiquer avec le public. Le piratage a déclenché un flot d'appels depuis les organisations inquiètes demandant conseil au FBI. Une société de suivi des cybermenaces affirme qu'au moins 100 000 emails d'avertissement ont été envoyés à partir du compte du FBI. Les agences gouvernementales américaines ont récemment été piratées à plusieurs reprises. L'un des plus médiatisés d'entre eux a été l'attaque de SolarWinds l'année dernière. L'Europe face à une crise migratoire croissante. La situation devient désormais incontrôlable à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, où des milliers de migrants restent bloqués pendant plusieurs jours, au milieu d'une amère impasse politique. Les migrants originaires pour la plupart du Moyen-Orient et d'Asie sont massés à la frontière extérieure de l'Union européenne en Biélorussie. La Pologne et la Lituanie refusent de les laisser passer. Au moins 8 sont déjà décédés et les craintes grandissent pour la sécurité des autres. Le gouvernement polonais estime qu'une quinzaine de personnes y campent. Il accuse la Russie, alliée de la Biélorussie, d'avoir orchestré la crise. L'Union européenne accuse également la Biélorussie, affirmant qu'elle pousse les migrants vers la frontière en représailles aux sanctions. La Biélorussie dit qu'elle coupera l'approvisionnement en gaz de l'Europe si de nouvelles sanctions sont imposées. Le président russe pointe également du doigt les États occidentaux. Vladimir Poutine dit que des motifs politiques, militaires et économiques sont en jeu. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Galilée s'embrase, Ben Gurion en feu. Selon des Times of Israel, les autorités du régime sioniste pensent que deux incendies de forêt massifs ont été déclenchés par un incendie criminel, selon les résultats d'une première enquête. Les incendies suspects ont éclaté près de Jita, dans le nord d'Israël, et de Zeitan, dans le centre d'Israël, près de l'aéroport international Ben-Gurion. Certains habitants des deux communautés ont été évacués dans la journée et 6 maisons de Jita ont été endommagées par les flammes, précise le journal. Israël a connu une éruption d'incendie de forêt samedi dans des conditions chaudes, sèches et poussiéreuses. Les services d'incendie et de secours affirment que plus de 200 incendies ont été allumés dans des zones ouvertes d'Israël samedi, forçant l'évacuation de centaines de familles. Les plus grands incendies sont maîtrisés et ne présentent plus de danger. Dans certaines zones, des preuves d'incendies criminels ont été trouvées, indique-t-il dans un communiqué. Le journal Haaretz a également signalé un incendie dévastateur dans la région de Galilée, dans le nord de la Palestine occupée, soulignant que l'incendie qui s'est déclaré dans la colonie de Jita a évacué les 80 familles qui y vivaient. En plus des incendies à Galilée autour de l'aéroport Ben-Gurion, 8 casernes de pompiers israéliennes ont été forcées de se rendre à Petah Tikva, pour éteindre les incendies en cours dans la région. Hier soir, un incendie s'est déclaré dans les forêts autour de la colonie de Haradar que les pompiers ont réussi à éteindre après 8 heures d'efforts. La chaîne 12 de la télévision israélienne a également demandé pourquoi tant d'incendies se produisent aujourd'hui, faisant référence aux nombreux incendies en Palestine occupée. Selon la même source, un incendie s'est également produit dans la gare de Rosh Hayin, ce qui a entraîné la fermeture complète de cette gare et de ses environs, dont l'autoroute 444. Cela intervient alors qu'un membre du bureau politique du djihad islamique de la Palestine a mis en garde le régime sioniste contre les conséquences de toute nouvelle attaque contre la bande de Gaza. Khaled al-Battash, membre du bureau politique du djihad islamique, a déclaré lors des cérémonies marquant l'anniversaire du martyr d'Abu al-Atta à Gaza que l'ennemi israélien avait commis une erreur stratégique majeure en assassinant Baha Abu Atta, l'un des commandants de la résistance, et en tentant d'assassiner Akram al-Ajouri, responsable des affaires militaires du djihad islamique. Al-Battash a également ajouté que le djihad islamique ne permettra jamais à quiconque de nous prendre l'arme de la résistance ou de changer son approche et ses objectifs. Les guerres que le régime sioniste déclenche ne parviendront jamais à changer notre voie, à nous maîtriser, à nous détruire, a-t-il indiqué. Tout en mettant en garde le régime sioniste contre les conséquences de toute nouvelle attaque sur la bande de Gaza ou de toute nouvelle crise, il a souligné « Nos missiles sont prêts à soutenir le peuple palestinien et sa résistance ».
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 13 novembre 2021. Le ton monte entre Alger et Rabat. Depuis que 3 Algériens ont été tués il y a une dizaine de jours au Sahara occidental dans un bombardement mené par les forces marocaines. En effet, les relations entre l'Algérie et le Maroc sont fortement brouillés depuis la récente visite du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, au Maroc, où il a prononcé des déclarations contre l'Algérie. Dans ce contexte, le front Polisario change de commandant à sa tête et selon de nombreux experts, l'on pourrait s'attendre à des opérations contre des unités marocaines. Ces évolutions interviennent au moment où, il y a 2 jours, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu au téléphone avec son homologue algérien des relations bilatérales, mais aussi des questions d'intérêt commun. Hossein Amir Abdullahian, dans cette conversation téléphonique, a salué en effet la position de l'Algérie en défense de la cause palestinienne et contre, bien entendu, l'entité israélienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces tensions croissantes entre l'Algérie et le Maroc, la perspective d'une confrontation à grande échelle et, bien entendu, la coopération entre l'Algérie et la République islamique d'Iran. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
La mort de 3 Algériens il y a quelques jours en plein Sahara occidental, assassinés dans un raid au drone mené au nom de l'armée marocaine mais par l'entité sioniste, aura été la goutte qui a fait déborder la vase. Alger a promis la vengeance, mais il semblerait que cette vengeance devrait bien prendre au dépourvu le camp d'en face. Le front Polisario passe à la résistance et pour de bon. Le front Polisario a nommé Mohamed Vali Akeik au poste de chef d'état-major. Ce septuagénaire a lutté dès son plus jeune âge contre les armées espagnoles puis marocaines avant d'occuper plusieurs postes politiques. Il se voit désormais confier la mission de lancer l'offensive terrestre contre les forces armées loyales, FAR. Pour nombre d'observateurs du dossier du Sahara occidental, l'arrivée de Mohamed Vali Akeik à la tête de l'armée sahraoui constitue un tournant dans ce conflit, car sa nomination est un indice de ce que pourrait être la stratégie militaire sahraoui dans les mois à venir. Le front Polisario a en effet fait part de sa désillusion lors de l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2602 et a réagi en annonçant son intention d'augmenter l'intensité du conflit armé qui l'oppose au Maroc. Avec cette nomination, il faut s'attendre à une montée en puissance de rythme des opérations des unités sahraouies. Le front Polisario devant passer du pilonnage des positions ennemies qu'il mène quotidiennement depuis la rupture du cessez-le-feu le 13 novembre 2020 à des opérations terrestres. Cette mission a été confiée à des chefs militaires qui ont fait leurs preuves au combat durant la première guerre contre le Maroc. Par ailleurs, dans un entretien avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra, le ministre iranien des Affaires étrangères a salué la position rationnelle de l'Algérie sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a discuté ce jeudi après-midi avec son homologue algérien Ramtane Lamamra du processus des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun sur l'échiquier régional et international. Se référant au vote négatif de l'Algérie pour l'adhésion du régime sioniste à l'Union africaine, le patron de la diplomatie iranienne a salué ce geste d'Alger et a ajouté « L'Algérie agit avec sagesse et logique et votre action ainsi que votre position rationnelle sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe sont précieuses. »
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. M. le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Codamandé, bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr une grande salutation à notre ami Luc Michel.
Les tensions au Sahara occidental, monsieur le professeur, alimentent les craintes d'un conflit entre Rabat et Alger. L'Algérie a déployé en effet des lanceurs de missiles à sa frontière après la mort de 3 Algériens en route vers la Mauritanie. Est-ce que la guerre peut éclater entre Alger et Rabat?
Je le sais, mais... La guerre, en effet, peut éclater, en tout cas, tout est fait, je dirais, par des différentes puissances pour parvenir à ce résultat. Je dois dire que même les décisions du Conseil de sécurité, au fil des ans, n'ont fait qu'envenimer la situation en présentant, disons, deux thèses contradictoires, toujours dans le même, à savoir qu'on reconnaissait d'un côté la souveraineté marocaine et de l'autre côté sur les territoires du Sahara occidental, en même temps que l'on préparait ou que l'on aménageait une sorte d'autodétermination, ce qui est bien sûr contradictoire et ne pouvait aboutir qu'à des résultats comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Je dois dire qu'au dernier Conseil de sécurité, je crois savoir que la Tunisie et la Fédération de Russie ont voté contre, n'est-ce pas, parce qu'ils se sont abstenus, car ils estimaient, disons, que ce texte que l'on présente n'est pas clair, ces textes du Conseil de sécurité, même si on insiste sur le fait que toute solution doit être, comme on dit, mutuellement acceptable. Bien sûr, c'est le cas de toute négociation, mais je crois que nous sommes allés trop loin. Je dis nous, j'entends l'ensemble des nations, en particulier, bien sûr, la Ligue arabe n'a pas rempli son rôle. Vous savez, j'ai connu cette période, bien sûr, des guerres coloniales. Mais je dois dire que je pense maintenant à ce qu'a été la conférence de Tanger en 1963. Celle-ci avait voulu former une sorte d'union du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, pour former, disons, une sorte, je ne dis pas d'entité politique, mais de mettre en place une sorte de solidarité dans une perspective anti-impérialiste. Bon, tout ceci, bien sûr, vole en éclats. Je dois dire que je ne veux pas me prononcer sur le fond, car ça sera toujours une sorte de dispute de question de souveraineté, mais je dois dire que le Maroc et l'Algérie sont, disons, l'un et l'autre, poussés, bien sûr, en premier le Maroc dans lequel l'influence sioniste est très forte, vous le savez, Vous avez parlé, votre présentateur a parlé donc de la visite du ministre des Affaires étrangères, du ministre israélien, mais vous avez aussi, je dois dire, une sorte de confrontation quand même entre la Russie et les États-Unis qui se font par Algérie et Maroc interposés. Il est certain que nous ne pouvons que déplorer en tout cas le manque d'instinct de résistance, d'instinct profond, disons. Je ne dis pas de manque d'esprit national, mais disons d'instinct stratégique de la part des deux nations, marocaines et algériennes, je le dis un peu sévèrement, de ne pas avoir vu, disons, qu'ils sont en réalité devenus, non pas maîtres d'eux-mêmes, mais sont obligés de suivre un affrontement dont on leur dicte les conditions, voyez-vous. Et je dois dire, c'est une leçon en tout cas pour tous les États qui ont leur indépendance, de savoir la défendre et non pas, disons, de se régler sur des stratégies qui leur sont proposées. De toute façon, je dois dire que les Nations Unies se sont conduites d'une façon, disons, lamentable depuis des années. Cette agression, dernière agression dont vous parlez sur les trois chauffeurs algériens est une provocation voulue, bien sûr. Je crois que ça a été réalisé par drone. Les Marocains ont assassiné ces gens-là. Bien, ce n'est pas toute la question, ne se réduit pas à cela. Mais disons que la guerre est voulue. La guerre est voulue. Israël, bien sûr, l'entité sioniste est au premier rang. Elle a toujours été au Maroc, il faut le dire, avec M. Azoulay et d'autres. Mais maintenant, je dois dire que le seul point positif que je trouve dans les relations entre le Maroc et Israël, c'est le fait que de nombreux colons, enfin de nombreux Marocains, juifs marocains qui étaient installés en Israël, reviennent maintenant au Maroc en quittant l'entité sioniste.
Merci.
C'est un point positif, je dois dire. C'est tout ce que je peux dire.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, monsieur le professeur. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles monsieur Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à votre équipe et bonjour au professeur Dortidier. Moi, j'ai une vision un peu différente des problèmes. Vous savez, premièrement, aucun pays n'échappe dans la confrontation des blocs. Il y a un bloc ici du Maroc et d'Israël, avec en arrière-plan les États-Unis, qui opposent un bloc qui est constitué de l'Algérie, de l'Iran, avec en arrière-plan la Russie. Mais ce qui existe surtout, c'est ce qui arrive lorsqu'un pays, le Maroc en l'occurrence, se laisse instrumentaliser par la politique américaine. La politique américaine, elle joue sur les nostalgies de grandes puissances, les pays qu'elle manipule et elle les conduit à la confrontation. Pour des avantages géopolitiques immédiats, le Maroc s'est laissé prendre. Il a cru aux promesses de Donald Trump reconnaissant la marocanité du Sahara espagnol. Et Joe Biden a repris évidemment ses promesses fallacieuses. On a donc le Maroc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est pas tellement les Israéliens qui sont en cause. Les Israéliens sont puissants au Maroc parce que derrière le Maroc, il y a les États-Unis. Le Maroc, c'est la porte d'entrée de l'OTAN en Afrique du Nord. Le pays a été déclaré allié stratégique prioritaire de l'OTAN. Deux partenaires, principalement face à l'Algérie et à la Libye, c'est aujourd'hui le Maroc qui est l'un des points d'implantation de l'OTAN qui se déploie dans toute l'Afrique, de la Méditerranée jusqu'à la mer Rouge. Mais également, le problème, c'est que le Maroc est la porte d'entrée de l'Afrique comme des Américains dans toute l'Afrique. Il y a eu, il y a quelques semaines, le grand exercice militaire Lion Africain 2021, où des troupes de l'US Army, de l'armée marocaine et d'une dizaine de pays africains ont été déployés précisément en guise de provocation, parce qu'on ne sait pas appeler ça autrement, aux frontières de l'Algérie, aux frontières du Sahara, du Polisario, mais aussi aux frontières des colonels pro-russes du Mali, que l'on a tenté d'intimider au moment où le Mali est en train de basculer du côté russe. Il y avait hier matin, dans l'Union, le ministre des Affaires étrangères malien qui se trouvait à Moscou, et qui a fait des déclarations avec le ministre Lavrov, qui éclaire le basculement du Mali du côté français et du côté américain vers le côté russe. C'est tout cela que le Maroc s'est laissé prendre. Il se laisse engager dans une confrontation avec l'Algérie. Et évidemment, un jour, il risque de se retrouver face à un bloc militaire dans lequel les Russes jouent un rôle prépondérant. On a vu ce que vaut l'alliance américaine en Afghanistan, la façon dont ils se sont dégagés en laissant le chaos. C'est la façon faite des Américains. Elle est d'ailleurs générale, puisque l'instrumentalisation de pays dits alliés, elle n'a pas lieu seulement en Afrique, elle a également lieu aux frontières de la Russie et en mer Noire, en Europe centrale, avec la Pologne, les Pays-Bas, la Roumanie ou l'Ukraine. C'est cela qui est le danger de la politique américaine. Moi, je ne crois pas directement à une guerre entre l'Algérie et le Maroc, mais je crois à une possibilité très réelle de guerre par procuration ouverte entre le Polisario et le Maroc.
Merci pour ces précisions, M. Michel. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur le professeur d'Ortiguia, selon les médias marocains, le régime sioniste pourrait fournir des systèmes de défense aérienne d'hommes de fer au Maroc pour le protéger face à une éventuelle attaque algérienne. Quel est l'intérêt d'Israël, mais aussi de l'axe US-France, surtout, à déclencher une guerre entre l'Algérie et le Maroc et en effet au Maghreb en général?
Eh bien, d'abord, il faut remarquer, j'ai bien entendu ce qu'a dit M. Michel, il faut remarquer que le Maroc, depuis très longtemps, appartient en réalité à l'OTAN. C'est-à-dire qu'on peut dire même qu'il est une sorte, il est agrégé à l'Europe de la défense. Pour ne pas dire à l'Europe tout court. Je l'ai observé, par exemple, dans le fait que de nombreux Marocains se trouvent dans beaucoup de services militaires français, etc., bien, ou de police, et que le Maroc permet aussi une double nationalité. Ça, c'est intéressant. À savoir, une nation marocaine mêlée. Une fois signalé cette agrégation, disons, du Maroc à l'Europe de la défense, à l'OTAN, je dois dire que un des intérêts qu'a le régime sioniste, c'est, premièrement, touchant sa propre défense, si je puis dire, sa propre sécurité, comme il aime à le dire, d'empêcher, bien sûr, toute union maghrébine contre lui, alors que cela avait été souvent envisagé et correspondait aux vœux publics de chacun des trois pays. De ce point de vue, c'est pour lui une manière, disons, de couper le Maghreb de toute intervention en Orient et au besoin, en faisant que l'Algérie, qui est le principal soutien, bien sûr, de la lutte palestinienne, soit occupée, bien sûr, par ses propres problèmes de défense. Et donc, il est certain que, sur le plan militaire, nous comprenons très bien l'intérêt qu'a Israël, bien sûr, de s'installer au Maroc. Je dois dire que j'insiste quand même sur le fait que les liens entre Israël et le Maroc étaient des liens, disons, peu visibles, mais que tous les Marocains, j'ai le témoignage d'Ahmed Rami à ce sujet, tous les Marocains le savent, n'est-ce pas, qu'il y a toujours eu des liens très profonds. Je pourrais m'en exprimer, mais je vais quand même rester aussi, je dirais discret dans ce domaine-là. Mais les liens sont très très profonds, quand même, entre certaines autorités marocaines, hautes autorités, disons, et l'entité sioniste. Ça, je ne peux pas en dire plus, mais disons que ceci est connu, disons, de tous les États. Je dois dire que c'est que j'ai bien écouté ce qu'a dit M. Michel. En effet, il est possible que l'on ne connaisse pas affaire à un affrontement direct, mais moi-même, je n'en suis pas aussi sûr. Mais il est possible, en effet, que ce ne soit qu'une manière de lutter, de faire pression sur le Mali et sur l'Afrique. Il est certain que ce que cherchent les Américains et les sionistes en premier, c'est avoir une maîtrise africaine. J'insiste je ne vais pas insister trop longtemps, mais je dirais que c'est un, j'ai eu l'occasion de vous le dire, je crois, c'est ce qu'avait exprimé M. Ben Gourion dès la fondation de l'entité sioniste. C'est-à-dire qu'il avait montré ce qu'on pourrait appeler un projet africain pour les Israéliens. Tout connaisseur de l'Afrique, et M. Michel est un bon connaisseur de l'Afrique, le sait, n'est-ce pas, c'est allé jusqu'en Afrique du Sud, où les Israéliens étaient dans les deux parties. Ils étaient à la fois pour l'apartheid et contre l'apartheid. Voilà.
Merci encore, Monsieur le professeur. Monsieur Michel, alors dans ce nouveau terrain de confrontation, à savoir le Maghreb, entre, bien sûr, les États-Unis et les pays occidentaux en général, d'une part, la Russie est l'axe de la résistance de l'autre, quelle est l'importance de la coopération entre l'Algérie et la République islamique d'Iran?
Écoutez, il y a actuellement une confrontation pour la domination de la Méditerranée occidentale. L'axe naval de Sébastopol jusqu'à Tartous, qui correspond à un des vecteurs de la géopolitique russe depuis Catherine la Grande, depuis le XVIIIe siècle, a neutralisé la Méditerranée orientale. Maintenant, le conflit s'est déplacé en Méditerranée occidentale. Il y a d'un côté l'Algérie qui est alignée à la Russie et qui s'apprête à donner une base navale à la Russie, à Mersin-Guébir, et le Maroc s'est laissé instrumentaliser par les Américains, puisque les Américains vont déplacer la base principale de la 6e flotte américaine qui est en Espagne vers le Maroc, et le Maroc va se retrouver confronté non pas seulement à l'Algérie, mais surtout à la Russie. La politique israélienne vient s'insérer là-dedans. Les intérêts d'Israël, ils sont doux. D'une part, il s'agit depuis des décennies de désenclaver diplomatiquement Israël, bien entendu, en le marché économique en Afrique. Mais il s'agit surtout d'ouvrir des débouchés au lobby militaro-industriel israélien. C'est une copie en petit du lobby militaro-industriel américain. Israël est surarmé uniquement parce qu'il peut exporter ses armes. L'Afrique, c'est un gigantesque débouché, notamment la guerre civile que les Israéliens organisent au Sud-Soudan depuis plus de 10 ans. Toutes les armes qui circulent en Afrique, on nous fait croire qu'elles viennent des arsenaux de Kadhafi. Mais la Libye, c'était un petit pays de 4 millions d'habitants. Les armes qui circulent en Afrique, elles viennent en réalité des arsenaux israéliens. C'est la même chose en Afrique du Nord. Le Maroc s'est laissé prendre dans une course aux armements. Il s'est laissé prendre aux sirènes américaines. En 2020, les Américains ont laissé croire aux Marocains, dans un classement dont l'Algérie avait été exclue, que le Maroc était devenu la première armée du Maghreb. En réalité, le rapport de force, la deuxième armée africaine, c'est l'Algérie. Le Maroc n'est que 5e armée. Mais à eux deux, ils absorbent 60% des importations d'armes étrangères en Afrique. C'est cela la réalité. Je le répète, le Maroc, un jour, pour des avantages géopolitiques et économiques immédiats, le Maroc va se retrouver isolé par contre l'Europe de l'Est. Il faut ajouter qu'il y a une dimension qu'on oublie, c'est que le Maroc n'est pas seulement la porte d'entrée militaire des Israéliens et des Américains, mais est également la porte d'entrée économique du Français. Le Maroc, c'est l'allié principal de Paris dans la conquête de la CEDEAO, notamment dans la prise en captation de l'écho qui est censé être remplacé pour Paris, mais aussi pour Rabat, le franc CFA. Et les Marocains oublient quelque chose, c'est que lorsqu'il y a eu la pointe de la confrontation entre Paris et les Marocains et les puissances anglo-saxonnes du Commonwealth dans la CEDEAO, eh bien, Washington a appuyé Londres et le Nigeria face à Paris et au Maroc. Et ça, la réalité du bloc américano-occidental, c'est que l'allié géopolitique principal, c'est l'adversaire économique principal, c'est la confrontation interne du bloc américano-occidental. Et dans ce bloc, les intérêts français et marocains, ils s'opposent aux intérêts anglo-saxons qui sont soutenus par les Américains.
Monsieur Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, monsieur le professeur Pierre Dortiguet, philosophe et politologue depuis Toulouse, Merci infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Dans un entretien avec son homologue algérien Ramtane Lamamra, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a salué la position rationnelle de l'Algérie sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a eu un entretien téléphonique avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra, entretien téléphonique au cours duquel les deux ministres se sont entretenus des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Faisant allusion aux bonnes relations diplomatiques entre l'Iran et l'Algérie, le chef de la diplomatie iranienne a exprimé l'espoir que les relations entre les deux pays se développeraient davantage dans tous les domaines. Amir Abdollahian a déclaré que la récente réunion de la Chambre de commerce des deux pays était une étape utile, sans manquer de préciser que la tenue de cette réunion créerait une bonne occasion d'améliorer le niveau des relations commerciales entre les deux pays. Se référant au vote négatif de l'Algérie pour l'adhésion du régime sioniste à l'Union africaine, le patron de la diplomatie iranienne a salué ce geste d'Alger et a ajouté « L'Algérie a agi avec sagesse, d'une manière logique, et votre action ainsi que votre position rationnelle sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe sont précieuse. Il a également émis l'espoir que la prochaine réunion de la Ligue arabe apporterait des avantages significatifs à l'Oumma islamique. Lors de cet entretien téléphonique, le ministre algérien des Affaires étrangères a souhaité une bonne santé et un rétablissement complet pour son homologue iranien et a souhaité que dans un proche avenir, nous entendrons de bonnes nouvelles concernant l'éradication complète de la COVID-19 et la réussite finale des pourparlers sur le nucléaire iranien. Évoquant la réunion de la Chambre de commerce des deux pays, il a qualifié de positive sa tenue pour l'essor des relations commerciales et l'augmentation du volume des échanges bilatéraux, tout en invitant formellement Amir Abdollahian à visiter l'Algérie. Ramtane Lamamra a souligné l'importance de former un comité politique et un comité de suivi des relations. Les deux parties ont jugé positif et constructif le processus des relations politiques et parlementaires irano-algériennes. S'agissant des récents développements en Libye, elles ont souligné que les problèmes en Libye devraient être résolus avec la présence de groupes libyens et sans ingérence étrangère. Les manifestations en Tunisie contre la décharge d'Agareb se poursuivent. En Tunisie, des manifestants se sont rassemblés ce samedi pour la quatrième fois cette semaine à Agareb. Les protestataires demandent la fermeture définitive de la décharge. Les habitants affirment que les déchets déversés sur le site, notamment des déchets industriels et médicaux dangereux, ont provoqué une série de maladies allant du cancer aux problèmes de vue et à l'infertilité. Les autorités ont décidé de fermer le site en septembre après l'avoir déclaré complet, mais ont fait marche arrière lundi, provoquant des manifestations de rue en colère qui ont dégénéré en affrontement avec les forces de sécurité. aux premières heures de mardi. Un manifestant est décédé des suites de l'inhalation de gaz lacrymogène, selon ses proches, mais les autorités ont attribué son décès à un problème de santé sans rapport avec la situation. Les manifestations interviennent dans le contexte d'une crise des ordures dans la province de Sfax qui a vu les déchets sont empilés sur les trottoirs après la fermeture du site d'Agarabé, la principale décharge de la province. Selon les habitants, le site est situé à environ 3 km du centre-ville et s'étendant sur 35 hectares est devenu un désastre pour la santé publique depuis son ouverture en 2008. 2 ans après son ouverture, nous avons commencé à constater une augmentation des allergies, des maladies respiratoires et des fausses couches, conséquences directes de l'incinération des déchets et du rejet de gaz toxiques par le site, a déclaré Bassem Ben Amar, un médecin qui travaille dans la ville depuis 2 décennies. Quatre pays d'Afrique de l'Ouest conviennent de mutualiser leurs forces pour préserver leurs ressources halieutiques. Le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie et la Guinée-Bissau ont convenu de mutualiser leurs moyens pour mieux préserver les ressources halieutiques, a annoncé vendredi à Dakar le ministre sénégalais des Pêches et de l'Économie maritime. Nous avons décidé de travailler en synergie de façon très étroite, de collaborer, de discuter régulièrement comme le font nos chefs d'État, de mutualiser nos moyens. Nous devons combiner de nos forces pour mieux préserver nos ressources halieutiques et les acteurs des KID travaillent dans ce secteur, a-t-il indiqué à l'issue d'une réunion avec ses homologues dans la région. Nous avons échangé comment aborder les problèmes que nous avons en commun, a ajouté M. Ndoye. Il s'agit d'un même peuple, c'est le même peuple. Nous devons ensemble combiner nos efforts pour préserver nos intérêts. Il s'agit aujourd'hui que les Africains se mettent ensemble pour construire leur destin, leur avenir et préserver leurs économies, a-t-il ajouté. Les forces de sécurité soudanaises ont tué au moins un manifestant lors de la répression des manifestations contre le coup d'État, selon des médecins, après que l'armée a renforcé son emprise en formant un nouveau conseil de direction. Les manifestations en faveur de la démocratie ont lieu près de 3 semaines après que le général en chef Abdel Fattah al-Burhan a évincé le gouvernement, arrêté les dirigeants civils et déclaré l'état d'urgence. Un manifestant a été tué à Omdurman par les balles du conseil militaire putschiste, a déclaré le comité central des médecins soudanais dans un communiqué faisant référence aux forces de sécurité. D'autres manifestants dans la ville jumelle de Khartoum ont été blessés par des balles réelles, a-t-il ajouté. Un correspondant de l'AFP a rapporté avoir entendu des coups de feu lors d'une manifestation dans l'est de Khartoum. Des gaz lacrymogènes ont également été tirés lors de nombreuses manifestations à Khartoum et dans les villes voisines, les forces de sécurité cherchant à disperser les manifestants, selon des témoins et un correspondant de l'AFP sur place. Non au régime militaire, le régime civil est le choix du peuple et abat le conseil tout entier, ont crié les manifestants dans le sud de Khartoum. Quinze personnalités sénégalaises et des pays voisins, dont la République de Guinée, du Mali et le Niger, ont reçu samedi des prix du citoyen modèle africain initié par le Club Modèle, une organisation sénégalaise, a-t-on constaté samedi de la cérémonie de distribution des prix à Dakar. La cérémonie a été présidée par Madame Mbaye Niang, ministre chef de cabinet du président sénégalais. Plusieurs officiels, des députés et élus territoriaux sénégalais, ainsi que des hommes d'affaires du Sénégal et diverses personnalités d'autres pays, dont l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara, ont pris part à la cérémonie. Le président de la République Macky Sall nous a instruit de valoriser et vulgariser les valeurs de la citoyenneté pour le bien de notre pays, a déclaré M. Niang lors de la cérémonie tenue dans la capitale sénégalaise. Au Sénégal et en Afrique, nous avons toujours évolué avec des valeurs. Nous devons veiller sur nos comportements. Les leaders d'opinion doivent appeler au civisme pour le bien de tous, a-t-il ajouté. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
acquitté